Le capital sans les notes. Deuxième section. La transformation de l'argent en capital. Chapitre grand 4. La formule générale du capital. La circulation des marchandises est le point de départ du capital. Il n'apparaît que là où la production marchande et le commerce ont déjà atteint un certain degré de développement. L'histoire moderne du capital date de la création du commerce et du marché des deux mondes au XVIe siècle. Si nous faisons abstraction de l'échange des valeurs d'usage, c'est-à-dire du côté matériel de la circulation des marchandises, pour ne considérer que les formes économiques qu'elle engendre, nous trouvons pour dernier résultat l'argent. Ce produit final de la circulation est la première forme d'apparition du capital. Lorsqu'on étudie le capital historiquement, dans ses origines, on le voit partout se poser en face de la propriété foncière sous forme d'argent, soit comme forme monétaire, soit comme capital commercial et comme capital usuraire. Mais nous n'avons pas besoin de regarder dans le passé. Il nous suffira d'observer ce qui se passe aujourd'hui même sous nos yeux. Aujourd'hui, comme jadis, chaque capital nouveau entre en scène, c'est-à-dire sur le marché, marché des produits, marché du travail, marché de la monnaie, sous forme d'argent. D'argent qui, par des procédés spéciaux, doit se transformer en capital. L'argent en tant qu'argent et l'argent en tant que capital ne se distinguent de prime abord que par leurs différentes formes de circulation. La forme immédiate de la circulation des marchandises est M-A-M, transformation de la marchandise en argent et retransformation de l'argent en marchandise, vendre pour acheter. Mais à côté de cette forme, nous en trouvons une autre, tout à fait distincte. La forme grand A argent tiré grand M marchandise tiré grand A argent, transformation de l'argent en marchandise et retransformation de la marchandise en argent, acheter pour vendre. Tout argent qui, dans son mouvement, décrit ce dernier cercle, se transforme en capital, devient capital, et est déjà, par destination, capital. Considérons de plus près la circulation grand A tiré grand M tiré grand A. Comme la circulation simple, elle parcourt deux phases opposées. Dans la première phase, grand A tiré grand M, achat, l'argent est transformé en marchandise. Dans la seconde, grand M tiré grand A, vente, la marchandise est transformée en argent. L'ensemble de ces deux phases s'exprime par le mouvement qui échange monnaie contre marchandise et de nouveau la même marchandise contre de la monnaie, achète pour vendre ou bien, si on néglige les différences formelles d'achat et de vente, achète avec de l'argent la marchandise et avec la marchandise l'argent. Ce mouvement aboutit à l'échange d'argent contre argent, A-A. Si j'achète pour 100 livres sterling, 2000 livres de coton, et qu'ensuite je vende ces 2000 livres de coton pour 110 livres sterling, j'ai en définitive échangé 100 livres sterling contre 110 livres sterling, monnaie contre monnaie. Il va sans dire que la circulation grand A-M-A serait un procédé bizarre si l'on voulait, par un semblable détour, échanger des sommes d'argent équivalentes, 100 livres sterling par exemple, contre 100 livres sterling. Mieux vaudrait encore la méthode du thésauriseur, qui garde solidement ses 100 livres sterling au lieu de les exposer au risque de la circulation. Mais d'un autre côté, que le marchand revende pour 110 livres sterling le coton qu'il a acheté avec 100 livres sterling, ou qu'il soit obligé de le livrer à 100 et même à 50 livres sterling. Dans tous ces cas, son argent décrit toujours un mouvement particulier et original, tout à fait différent de celui que parcourt, par exemple, l'argent du fermier qui vend du froment et achète un habit. Il nous faut donc tout d'abord constater les différences caractéristiques entre les deux formes de circulation, grand A-grand M-grand A, et grand M-grand A-grand M. Nous verrons en même temps quelle différence réelle gît sous cette différence formelle. Considérons en premier lieu ce que les deux formes ont de commun. Les deux mouvements se décomposent dans les deux mêmes phases opposées, grand M-grand A, vente, et grand A-grand M, achat. Dans chacune des deux phases, les deux mêmes éléments matériels se font face, marchandises et argent, ainsi que deux personnes sous les mêmes masques économiques, acheteurs et vendeurs. Chaque mouvement est l'unité des mêmes phases opposées, de l'achat et de la vente, et chaque fois, il s'accomplit par l'intervention de trois contractants, dont l'un ne fait que vendre, l'autre qu'acheter, tandis que le troisième achète et vend tour à tour. Ce qui distingue cependant tout d'abord les mouvements grand M-grand A-grand M et grand A-grand M-grand A, c'est l'ordre inverse des mêmes phases opposées. La circulation simple commence par la vente et finit par l'achat. La circulation de l'argent comme capital commence par l'achat et finit par la vente. Là, c'est la marchandise qui forme le point de départ et le point de retour. Ici, c'est l'argent. Dans la première forme, c'est l'argent qui sert d'intermédiaire. Dans la seconde, c'est la marchandise. Dans la circulation grand M-grand A-grand M, l'argent est enfin converti en marchandise qui sert de valeur d'usage. Il est donc définitivement dépensé. Dans la forme inverse, grand A-grand M-grand A, l'acheteur donne son argent pour le reprendre comme vendeur. Par l'achat de la marchandise, il jette dans la circulation de l'argent qu'il en retire ensuite par la vente de la même marchandise. S'il le laisse partir, c'est seulement avec l'arrière-pensée perfide de le rattraper. Cet argent est donc simplement avancé. Dans la forme grand M-grand A-grand M, la même pièce de monnaie change deux fois de place. Le vendeur la reçoit de l'acheteur et la fait passer à un autre vendeur. Le mouvement commence par une recette d'argent pour marchandise et finit par une livraison d'argent pour marchandise. Le contraire a lieu dans la forme grand A-grand M-grand A. Ce n'est pas la même pièce de monnaie, mais la même marchandise qui change ici deux fois de place. L'acheteur la reçoit de la main du vendeur et la transmet à un autre acheteur. De même que dans la circulation simple, le changement de place par deux fois de la même pièce de monnaie a pour résultat son passage définitif d'une main dans l'autre, de même ici, le changement de place par deux fois de la même marchandise a pour résultat le reflux de l'argent à son premier point de départ. Le reflux de l'argent à son point de départ ne dépend pas de ce que la marchandise est vendue plus cher qu'elle n'a été achetée. Cette circonstance n'influe que sur la grandeur de la somme qui revient. Le phénomène du reflux lui-même a lieu dès que la marchandise achetée est de nouveau vendue, c'est-à-dire dès que le cercle grand A-M-A est complètement décrit. C'est là une différence palpable entre la circulation de l'argent comme capital et sa circulation comme simple monnaie. Le cercle M-A-M est complètement parcouru dès que la vente d'une marchandise apporte de l'argent que remporte l'achat d'une autre marchandise. Si néanmoins un reflux d'argent a lieu ensuite, ce ne peut être que parce que le parcours tout entier du cercle est de nouveau décrit. Si je vends un quart de froment pour 3 livres sterling et que j'achète des habits avec cet argent, les 3 livres sterling sont pour moi définitivement dépensés. Elles ne me regardent plus. Le marchand d'habits les a dans sa poche. J'ai beau vendre un second quart de froment, l'argent que je reçois ne provient pas de la première transaction, mais de son renouvellement. Il s'éloigne encore de moi si je mène à terme la seconde transaction et que j'achète de nouveau. Dans la circulation M-A-M, la dépense de l'argent n'a donc rien de commun avec son retour. C'est tout le contraire dans la circulation A-M-A. Là, si l'argent ne reflue pas, l'opération est manquée. Le mouvement est interrompu ou inachevé parce que sa seconde phase, c'est-à-dire la vente qui complète l'achat, fait défaut. Le cercle M-A-M a pour point initial une marchandise et pour point final une autre marchandise qui ne circule plus et tombe dans la consommation. La satisfaction d'un besoin, une valeur d'usage, tel est donc son but définitif. Le cercle A-M-A, au contraire, a pour point de départ l'argent et y revient. Son motif, son but déterminant, est donc la valeur d'échange. Dans la circulation simple, les deux termes extrêmes ont la même forme économique. Ils sont tous deux marchandises. Ils sont aussi des marchandises de même valeur. Mais ils sont en même temps des valeurs d'usage de qualité différentes, par exemple froment et habit. Le mouvement aboutit à l'échange des produits, à la permutation des matières diverses dans lesquelles se manifeste le travail social. La circulation A-M-A, au contraire, paraît vide de sens au premier coup d'œil, parce qu'elle est tautologique. Les deux extrêmes ont la même forme économique. Ils sont tous deux argent. Ils ne se distinguent point qualitativement, comme valeur d'usage, car l'argent est l'aspect transformé des marchandises dans lequel leurs valeurs d'usage particulières sont éteintes. Échanger 100 livres sterling contre du coton, et de nouveau le même coton contre 100 livres sterling, c'est-à-dire échanger par un détour argent contre argent, idem contre idem, une telle opération semble aussi sotte qu'inutile. Une somme d'argent, en tant qu'elle représente de la valeur, ne peut se distinguer d'une autre somme que par sa quantité. Le mouvement A-M-A ne tire sa raison d'être d'aucune différence qualitative de ces extrêmes, car ils sont argent tous deux, mais seulement de leur différence quantitative. Finalement, il est soustrait à la circulation plus d'argent qu'il n'y en a été jeté. Le coton acheté 100 livres sterling est revendu 100 plus 10 ou 110 livres sterling. La forme complète de ce mouvement est donc grand A tiré grand M tiré grand A prime, dans laquelle grand A prime égale grand A plus delta de grand A, c'est-à-dire égale à la somme primitivement avancée plus un excédent. Cet excédent, ou ce surcroît, je l'appelle plus-value. Ouvrez la parenthèse. En anglais, surplus value. Fermez la parenthèse. Non seulement donc la valeur avancée se conserve dans la circulation, mais elle y change encore sa grandeur, y ajoute un plus, se fait valoir davantage. Et c'est ce mouvement qui la transforme en capital. Il se peut que les extrêmes grand M et grand M de la circulation grand M-grand A-grand M, froment-argent-habit par exemple, soient aussi de valeur inégale. Le fermier peut vendre son froment au-dessus de sa valeur ou acheter l'habit au-dessous de la sienne. À son tour, il peut être floué par le marchand d'habits. Mais l'inégalité des valeurs échangées n'est qu'un accident pour cette forme de circulation. Son caractère normal, c'est l'équivalence de ces deux extrêmes, laquelle, au contraire, enlèverait tout sens au mouvement grand A tiré grand M tiré grand A. Le renouvellement ou la répétition de la vente de marchandises pour l'achat d'autres marchandises rencontre, en dehors de la circulation, une limite dans la consommation, dans la satisfaction de besoins déterminés. Dans l'achat pour la vente, au contraire, le commencement et la fin sont une seule et même chose, argent, valeur d'échange. Et cette identité même de ces deux termes extrêmes fait que le mouvement n'a pas de fin. Il est vrai que grand A est devenu grand A plus delta de grand A, que nous avons 100 plus 10 livres sterling au lieu de 100. Mais sous le rapport de la qualité, 110 livres sterling sont la même chose que 100 livres sterling, c'est-à-dire argent. Et sous le rapport de la quantité, la première somme n'est qu'une valeur limitée, aussi bien que la seconde. Si les 100 livres sterling sont dépensées comme argent, elles changent aussitôt de rôle et cessent de fonctionner comme capital. Si elles sont dérobées à la circulation, elles se pétrifient sous forme trésor et ne grossiront pas d'un liard quand elle dormirait là jusqu'au jugement dernier. Dès que l'augmentation quand même de la valeur forme donc le but final du mouvement, 110 livres sterling ressentent le même besoin de s'accroître que 100 livres sterling. La valeur primitivement avancée se distingue bien, il est vrai, pour un instant, de la plus-value qui s'ajoute à elle dans la circulation. Mais cette distinction s'évanouit aussitôt. Ce qui finalement sort de la circulation, ce n'est pas d'un côté la valeur première de 100 livres sterling et de l'autre la plus-value de 10 livres sterling. C'est une valeur de 110 livres sterling, laquelle se trouve dans la même forme et les mêmes conditions que les 100 premières livres sterling, prêtes à recommencer le même jeu. Le dernier terme de chaque cercle, grand A tiré grand M tiré grand A, acheté pour vendre, est le premier terme d'une nouvelle circulation du même genre. La circulation simple, vendre pour acheter, ne sert que de moyen d'atteindre un but situé en dehors d'elle-même. C'est-à-dire l'appropriation de valeurs d'usage, de choses propres à satisfaire des besoins déterminés. La circulation de l'argent comme capital possède au contraire son but en elle-même, car ce n'est que par ce mouvement toujours renouvelé que la valeur continue à se faire valoir. Le mouvement du capital n'a donc pas de limite. C'est comme représentant, comme support conscient de ce mouvement, que le possesseur d'argent devient capitaliste. Sa personne, ou plutôt sa poche, est le point de départ de l'argent et son point de retour. Le contenu objectif de la circulation, grand A-grand M-grand A', c'est-à-dire la plus-value qu'enfante la valeur, tel est son but subjectif, intime. Ce n'est qu'autant que l'appropriation toujours croissante de la richesse abstraite est le seul motif déterminant de ses opérations, qu'il fonctionne comme capitaliste, ou, si l'on veut, comme capital personnifié, doué de conscience et de volonté. La valeur d'usage ne doit donc jamais être considérée comme le but immédiat du capitaliste, pas plus que le gain isolé. Mais bien le mouvement incessant du gain toujours renouvelé. Cette tendance absolue à l'enrichissement, cette chasse passionnée à la valeur d'échange, lui sont communes avec le thésauriseur. Mais tandis que celui-ci n'est qu'un capitaliste maniaque, le capitaliste est un thésauriseur rationnel. La vie éternelle de la valeur, que le thésauriseur croit s'assurer en sauvant l'argent des dangers de la circulation, plus habile, le capitaliste la gagne en lançant toujours de nouveau l'argent dans la circulation. Les formes indépendantes, c'est-à-dire les formes argent ou monnaie que revêt la valeur des marchandises dans la circulation simple, servent seulement d'intermédiaire pour l'échange des produits et disparaissent dans le résultat final du mouvement. Dans la circulation grand A-grand M-grand A', au contraire, marchandises et argent ne fonctionnent l'une et l'autre que comme des formes différentes de la valeur elle-même, de manière que l'un en est la forme générale, l'autre la forme particulière, et pour ainsi dire, dissimulée. La valeur passe constamment d'une forme à l'autre sans se perdre dans ce mouvement. Si l'on s'arrête soit à l'une, soit à l'autre de ces formes, dans lesquelles elles se manifestent tour à tour, on arrive aux deux définitions. Le capital est argent, le capital est marchandise. Mais en fait, la valeur se présente ici comme une substance automatique, douée d'une vie propre, qui, tout en échangeant ses formes sans cesse, change aussi de grandeur et spontanément, en tant que valeur mère, produit une pousse nouvelle, une plus-value, et finalement s'accroît par sa propre vertu. En un mot, la valeur semble avoir acquis la propriété occulte d'enfanter de la valeur, parce qu'elle est valeur, de faire des petits ou du moins de pondre des œufs d'or. Comme la valeur devenue capitale subit des changements continuels d'aspect et de grandeur, il lui faut avant tout une forme propre au moyen de laquelle son identité avec elle-même soit constatée. Et cette forme propre, elle ne la possède que dans l'argent. C'est sous la forme argent qu'elle commence, termine et recommence son procédé de génération spontanée. Elle était 100 livres sterling, elle est maintenant 110 livres sterling, et ainsi de suite. Mais l'argent lui-même n'est ici qu'une forme de la valeur, car celle-ci en a deux. Que la forme marchandise soit mise de côté, et l'argent ne devient pas capital. C'est le changement de place par deux fois de la même marchandise, premièrement dans l'achat, où elle remplace l'argent avancé, secondement dans la vente où l'argent est repris de nouveau. C'est ce double déplacement seul qui occasionne le reflux de l'argent à son point de départ et de plus d'argent qu'il n'en avait été jeté dans la circulation. L'argent n'a donc point ici une attitude hostile vis-à-vis de la marchandise, comme c'est le cas chez le thésauriseur. Le capitaliste sait fort bien que toutes les marchandises, quelle que soit leur apparence et leur odeur, sont, ouvrez les guillemets, dans la foi et dans la vérité, fermez les guillemets, de l'argent. Et de plus, des instruments merveilleux pour faire de l'argent. Nous avons vu que, dans la circulation simple, il s'accomplit une séparation formelle entre les marchandises et leurs valeurs, qui se posent en face d'elles sous l'aspect argent. Maintenant, la valeur se présente tout à coup comme une substance motrice d'elle-même, et pour laquelle marchandises et argent ne sont que de pure forme. Bien plus, au lieu de représenter des rapports entre marchandises, elle entre, pour ainsi dire, en rapport privé avec soi-même. Elle distingue en soi sa valeur primitive de sa plus-value, de la même façon que Dieu distingue en sa personne le Père et le Fils, et que tous les deux ne font qu'un et sont du même âge, car ce n'est que par la plus-value de 10 livres sterling que les 100 premières livres sterling avancées deviennent capitales. Et dès que cela est accompli, dès que le Fils a été engendré par le Père et réciproquement, toute différence s'évanouit et il n'y a plus qu'un seul être, 110 livres sterling. La valeur devient donc valeur progressive, argent toujours bourgeonnant, poussant, et comme tel, capital. Elle sort de la circulation, y revient, s'y maintient et s'y multiplie, en sort de nouveau accrue, et recommence sans cesse la même rotation. Grand A tiré grand A prime, argent qui pond de l'argent, monnaie qui fait des petits. Money which begets money. Telle est aussi la définition du capital dans la bouche de ses premiers interprètes, les mercantilistes. Acheter pour vendre, ou mieux, acheter pour vendre plus cher, grand A tiré grand M tiré grand A prime, voilà une forme qui ne semble propre qu'à une seule espèce de capital, au capital commercial. Mais le capital industriel est aussi de l'argent qui se transforme en marchandises, et, par la vente de cette dernière, se retransforme en plus d'argent. Ce qui se passe entre l'achat et la vente, en dehors de la sphère de circulation, ne change rien à cette forme de mouvement. Enfin, par rapport au capital usuraire, la forme grand A tiré grand M tiré grand A prime est réduite à ces deux extrêmes sans terme moyen. Elle se résume en style lapidaire en grand A tiré grand A prime, argent qui vaut plus d'argent, valeur qui est plus grande qu'elle-même. Grand A tiré grand M tiré grand A prime est donc réellement la formule générale du capital, telle qu'il se montre dans la circulation.